Nous allons commencer. Nous accueillons aujourd'hui le président de la Ligue de football professionnel, Monsieur Vincent Labrune, qui est accompagné de Monsieur Rouget, directeur général de la Ligue. Je les remercie en votre nom de leur présence ce matin. La Ligue de football professionnel est une association de loi 1901 qui assure, sous l'autorité de la Fédération française de football, la gestion des activités du football professionnel en France, avec notamment l'organisation du championnat de France de football de Ligue 1, ainsi que de championnat de France de football de Ligue 2 de deuxième division. Je rappelle que la Fédération française bénéficie d'une délégation de service public pour exercer ses missions et que cette délégation fonde la légitimité du contrôle que le Parlement peut opérer sur son fonctionnement et celui de ses démembrements, dont la Ligue. Votre audition, Monsieur le Président, est importante à plus d'un titre. Elle intervient à un moment clé, alors que les clubs professionnels ont été durablement affaiblis par la crise sanitaire et la défaillance du diffuseur principal qui avait été choisi. Je veux parler du groupe Mediapro. Nous souhaitons évidemment que vous nous éclairiez sur l'état financier des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, sachant que Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG, qui a été entendu début octobre par notre rapporteur sur le projet de loi sport, proposition de loi sport, pardon, avait comparé leur situation, je cite, à celle d'un patient en soins intensifs dont les variables étaient cependant stables. Je ne doute pas que mes collègues souhaiteront vous interroger sur la question des droits audiovisuels du football. Nous sommes conscients que vos réponses devront tenir compte des procédures en cours, mais il est également important pour le législateur que nous sommes de bien mesurer les difficultés que génère le processus d'attribution des droits pour éviter que de nouvelles défaillances se produisent à l'avenir. Une des réponses sur lesquelles a travaillé la Ligue serait de créer une société commerciale pour commercialiser les droits audiovisuels. Cette idée constituait du reste une des propositions du rapport sur la gouvernance du football en 2017 de nos collègues Dominique Bailly, Jean-Jacques Lozach et Claude Kern. Cette disposition a été introduite dans la proposition de loi sur la démocratisation du sport lors de son examen par l'Assemblée nationale, avec une évolution de taille qui tient à la possibilité pour la Ligue d'ouvrir jusqu'à 20% du capital de cette société. Nous examinerons, vous le savez, cette proposition de loi en commission le 5 janvier, puis en séance publique le 18 et le 19 janvier. Et je sais que notre rapporteur, Michel Savin, aura à cœur de vous interroger sur ce sujet et sur peut-être d'autres d'ailleurs. Je termine en évoquant deux questions d'actualité importantes, celle bien sûr de la violence dans les stades, qui est redevenue un sujet tristement d'actualité. Je sais que c'est évidemment une préoccupation pour vous également. Nous sommes préoccupés par ce que nous voyons. Il va de soi que la perspective de discuter prochainement d'un texte de loi doit nous alerter sur la nécessité ou pas de renforcer l'arsenal juridique à disposition des autorités et des clubs. Et évidemment, nous aurons à cœur de vous entendre sur ce sujet. Et puis, dernier sujet d'actualité, une actualité malheureusement récurrente, c'est celle de la crise sanitaire avec la nouvelle vague de la Covid. Et nous aurons évidemment certainement envie de vous entendre sur la capacité à respecter les gestes barrières à l'intérieur des stades. Nous savons que ce n'est pas forcément simple. Voilà, Monsieur le Président, une série de les différents thèmes sur lesquels nous souhaitons vous entendre. Je ne doute pas que mes collègues vont dans quelques instants revenir sur ces sujets et poser des questions précises. Mais préalablement, je vous cède la parole, non sans avoir rappelé que cette audition est captée et diffusée sur le site internet du Sénat. Je vous cède la parole pour un propos court, afin que nous procédions sous forme de questions-réponses. Merci.
Monsieur le Président Lafont, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, merci de nous accueillir aujourd'hui avec Monsieur Rouget. Très rapidement, et pour faire court, donc, nous sommes arrivés à LFP avec Arnaud il y a un peu plus de 12 mois. On a traversé une période inédite avec un triple tsunami qui allait certes de la crise sanitaire, mais également à l'arrêt des compétitions. On est le seul pays en France où les compétitions ont été arrêtées sur décision gouvernementale. Malheureusement, la défaillance de notre principal partenaire, Mediapro, comme chacun le sait. Depuis ce moment, on essaie de trouver des solutions. Jean-Marc Mickeler est venu effectivement vous faire état de la situation financière du football français. Schématiquement, au niveau macroéconomique, les grandes masses, c'est 1,8 milliard d'euros de pertes pour les clubs depuis 2019. Il y a eu sur la même période environ 700 millions d'euros d'augmentation de capital procédée par les clubs et environ 1,5 milliard d'euros d'apport en compte courant par les actionnaires qui jouent leur rôle, mais on voit que le compte n'y est pas. Donc parmi les pistes de travail effectivement sur lesquelles nous nous sommes mis ensemble avec nos équipes, il y a ce sujet de création d'une filiale commerciale. Alors c'est pas dans un monde idéal, si tout allait bien, on se serait pas mis dessus, mais on doit vivre avec une réalité. La réalité, c'est qu'on est dans un marché global du football européen, avec une concurrence européenne. Et déjà, à partir du moment où nos voisins ont tous regardé cette hypothèse, on ne pouvait pas se faire l'économie, nous aussi, de le mettre sur la table. On nous l'aurait reproché si on ne l'avait pas fait. Donc on avance, c'est une course d'obstacles. On essaie de faire ça dans l'ordre, en réglant les sujets les uns après les autres, et afin de prendre une décision prochainement, tous ensemble, dans l'intérêt général, la volonté globale, et de transformer les contraintes qui sont les nôtres en opportunités, et de permettre au football français, à travers cette crise majeure, de se renouveler, de se réformer, de préparer le futur dans la meilleure dans les meilleures circonstances. Voilà.
Et on va commencer sans plus tarder les questions. Et je vais donner la parole à Michel Savin, qui est donc le rapporteur de la PPL sur la démocratisation du sport.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général de votre présence parmi nous ce matin. Monsieur le Président, depuis votre arrivée à la présidence de la Ligue de football professionnel, d'abord, vous avez dû gérer, ça a été rappelé par le Président, des événements qui ont quand même bousculé fortement la vie du football professionnel français. Mais dans le même temps, vous avez quand même engagé, et il faut le reconnaître, de nombreux projets de modernisation et d'évolution pour prendre en compte la situation du football français. Vous avez donc, ça a été rappelé, été confronté à la défaillance de Mediapro, qui a été un véritable choc, bien sûr, pour le football français, mais qui a aussi eu un impact très fort sur le plan financier, mais aussi au niveau professionnel, mais aussi sur le sport en général, avec, bien sûr, au travers de la taxe Buffet qui a été impactée par cette défaillance, parce que les budgets au niveau de l'État étaient calés sur des recettes qui, malheureusement, n'ont pas été atteintes. En réaction, depuis plusieurs mois, la Ligue de football professionnel travaille sur différentes mesures. Je pense que vous allez peut-être nous en reparler pour essayer de répondre aux enjeux économiques du football français. Vous préparez des réformes, on a entendu, sur la diminution du nombre de clubs, sur le salary cap, qui est aussi un sujet important et qui permettra, ces réformes permettront peut-être aussi d'accompagner l'évolution du sport professionnel et notamment du foot en France. Mais vous travaillez aussi donc sur le projet de la mise en place d'une société commerciale qui visant à commercialiser donc les droits audiovisuels. Alors pour cela, le président l'a rappelé, une disposition législative doit être adoptée dans le texte de la PPL qui est en discussion, qui va être en discussion au Sénat. L'article 10 bis A de la proposition de loi visant à démocratiser le sport étant donc en émanation. Donc si tout se passe bien, donc le texte devrait être définitivement adopté avant la fin de la session parlementaire fin février, après le passage au Sénat au mois de janvier. Ce dispositif a été adopté par un amendement de séance déposé par un député. Alors, nous pouvons déjà regretter qu'à ce stade, aucune étude d'impact n'ait été réalisée, que plusieurs points restent en suspens. Donc, c'est les questions, Monsieur le Président, que je souhaite aborder. Les premières questions. Concernant cette société commerciale, l'article 10 bis prévoit dans son alinéa 4 que les statuts de la société devront définir les décisions qui ne pourront être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires. Quelles seront ces décisions ? Qu'est-ce qui justifie de donner un tel droit de veto à des actionnaires minoritaires possédant moins de 20% du capital ? Deuxième question, la Ligue souhaite très conservé au moins 80% du capital et des droits de vote. Quel sera le profil du ou des actionnaires que vous souhaitez pouvoir accueillir? Quelle sera aussi leur nationalité? Parce qu'on entend beaucoup qu'il y a de grandes chances que ce soit des actionnaires étrangers. Donc là aussi, des questions peuvent se poser selon de quel pays peuvent arriver ces fonds. Troisième point, l'ouverture du capital à hauteur de 20% est-il vraiment nécessaire alors qu'un niveau moins élevé a été retenu dans d'autres pays comme l'Espagne, qui est à 10%. Que penseriez-vous de retenir un niveau moins élevé autour de 10% par exemple? Quatrième point, quel contrôle la Ligue pourra-t-elle exercer sur le choix du ou des actionnaires afin de s'assurer qu'ils ne représenteront aucun risque pour la discipline? L'enjeu étant que les actionnaires n'aient pas de pouvoir de nuisance ou de modification sur l'organisation et autres du football professionnel. Et enfin, dernière question sur ce point-là. Que pensez-vous de renforcer la place de la Fédération française de football, notamment en lui donnant un droit de veto, tant pour les statuts de la société que pour le choix des actionnaires?
Allez-y, Monsieur Savin, je vous remercie. Ça fait beaucoup, beaucoup de questions d'un coup, de bon matin. Dans le désordre, renforcer le poids de la fédération dans notre organisation, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. Comme ça, ça va être très clair. On est dans une organisation qui est complexe, qui est lourde. On l'a dit, on est en délégation de services publics, ministère, fédération, ligue. Le sport professionnel, le football professionnel français est un sport d'élite. On ne peut pas comparer une minorité de clubs qui font de l'entertainment avec le sport à l'école d'une façon générale. On a beaucoup de contraintes, on s'y tient. On a beaucoup de respect pour la fédération. On est archi contrôlé. Je pense que c'est plutôt. Il faut faire preuve d'un peu plus de souplesse que de renforcer ce contrôle. Et je dis ça avec beaucoup d'amitié et de respect pour le président de la fédération française, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le projet de société commerciale, on ne peut pas le déconnecter des projets globaux de réforme qu'on met en place. Tout est lié. Le monde change, la société change, le sport change, le football change. Et nous, on doit, le football professionnel français, changer radicalement notre approche si on veut être en phase avec la société et l'évolution notamment des droits sportifs. Donc, quand on décide de réduire le nombre de clubs, c'est pour essayer à terme d'augmenter nos performances en Coupe d'Europe en ayant moins de matchs en semaine de championnat. Deuxièmement, c'est pour essayer d'avoir plus de matchs premium, de concentrer les talents dans un plus petit nombre d'équipes, puisque le marché audiovisuel a radicalement changé ces derniers temps. Et là où on était en situation de commercialiser assez facilement la dizaine de rencontres qui est celle de Ligue 1 jusqu'à aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a en gros deux ou trois matchs qui font l'essentiel de la valeur. Et on a des études qui montrent qu'il y a un ratio de 1 à 30 entre la valeur d'un match top 10 et un match d'un choix 6 à 10. La troisième réforme qu'on met en place également pour changer notre modèle, c'est la sacralisation de la formation à la française. On a la meilleure formation mondiale, c'est reconnu. Et on souhaite passer le premier contrat professionnel des jeunes joueurs de 3 à 5 ans. C'est une discussion qu'on mène maintenant depuis plusieurs mois avec le syndicat des joueurs qui évolue positivement. Et on veut bénéficier du talent de cette jeunesse pour qu'elle reste dans notre championnat, qu'elle grandisse avec nous, qu'elle progresse avec nous, plutôt que de partir dès leur plus jeune âge dans les pays étrangers. On a également un changement culturel qu'on veut mettre en place dans le football français. C'est une approche beaucoup plus internationale. On a fait l'erreur collectivement, tout ce temps qu'on est, moi le premier, en tant qu'administrateur de la LFP, de se centrer prioritairement depuis un certain nombre d'années sur nos revenus domestiques. On a mis des œillères et on s'est concentré sur ces revenus qui augmentaient de façon exponentielle sans se préoccuper d'aller capter les recettes internationales. Ça nous met un des handicaps forts par rapport à nos concurrents. Donc aujourd'hui, on a une vraie volonté de performer sur la scène européenne, à la fois pour capter les recettes qui sont versées par l'UEFA et qui sont très importantes, mais aussi pour permettre au football professionnel de clubs français, pour permettre à la France de rayonner à l'international. Moi, je considère que le sport en général et le football en particulier doit permettre à la France de briller sur tous les territoires européens. On est fiers quand Julien Alaphilippe gagne le championnat du monde, quand l'équipe de France de football gagne une compétition majeure. On doit être fiers aussi quand nos clubs performent à l'international. On apporte du baume au cœur des gens et des bonnes émotions. Donc on doit être performant sur la scène européenne. Et de cette performance sur la scène européenne, on va gagner en notoriété à l'international. Et mécaniquement, on sera en situation d'augmenter nos droits internationaux, qui est un terrain sur lequel qu'on a laissé totalement en jachère depuis une quinzaine d'années. Et donc ainsi créer un cercle vertueux qui serait l'augmentation des recettes sur la scène européenne, des droits internationaux qui nous permettraient de conserver nos meilleurs talents, d'en recruter d'autres, d'avoir un meilleur spectacle, donc d'avoir une meilleure audience et donc de relancer positivement le cycle des droits. Pourquoi je vous dis tout ça en préambule, et je réponds sans doute complètement à côté de vos questions, c'est que on part pas de zéro, malheureusement. On l'a rappelé, on a malheureusement, à cause de Mediapro, une perte de 50% de montant de droits télé domestiques par rapport à nos principaux voisins qui sont les concurrents, qui sont l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Il n'y a d'ailleurs aucune raison objective pour que les droits télé domestiques du championnat français soient de 50% inférieurs à ceux de ses voisins. Il n'y en a aucune. On a des très grands talents mondiaux qui jouent en Ligue 1. On a des clubs qui performent bien cette année en Coupe d'Europe. Donc on voit bien qu'on doit s'accrocher pour trouver une solution. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de temps. On n'a pas de temps parce que, à très court terme, à échéance, un an et demi, deux ans, on a l'impérieuse nécessité de recréer une compétition nationale ultra performante, attrayante, spectaculaire, pour maximiser notre prochain appel d'offres domestique, d'une part, qui va arriver très vite en 2023. Et on a dans le même temps l'impérieuse nécessité également d'être surperformant sur la scène européenne sur la même période à court terme, puisqu'il y a une réforme de l'UEFA qui se mettra en place en 2024, sans rentrer dans des détails trop techniques. On est cinquième au classement européen. Les cinq premiers au classement européen pourront avoir quatre places qualificatives en Ligue des Champions, qui génèrent des recettes importantes pour les clubs et donc pour la compétition nationale par conséquence. Et si on sort de ce classement, je pense que le championnat de France, football professionnel français, on sera définitivement en deuxième division européenne. Alors, on a le meilleur football de sélection nationale, je pense que... C'est difficile à contester, on a la meilleure formation, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas l'ambition d'avoir le meilleur football de club. Et en tout état de cause, si à court terme, on n'est pas capable de rentrer un peu d'argent frais dans les caisses pour nous permettre de nous sauver, mais surtout de rebondir, le championnat de France, ça deviendra le championnat de Slovénie, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades de Ljubljana, et ce n'est pas l'objet de notre mission avec Arnaud. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Cette saison, on va être sur un volant. Les auditions des NCG se terminent aujourd'hui, donc on n'a pas les chiffres actualisés, mais on vous les communiquera. On est sur un volant encore de 600 à 800 millions de pertes sur le football français. On ne va pas les demander à l'État, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant. Les actionnaires ont déjà fait beaucoup d'efforts, on pense qu'ils sont arrivés à une certaine limite. Et donc finalement, on n'a pas trop d'autres moyen à court terme que de lancer ce projet de société commerciale. Mais encore une fois, on ne veut pas le faire pour des mauvaises raisons. Il faut qu'on soit tous d'accord entre nous, c'est ce qu'on a dit au club. Il faut que tout le monde partage la philosophie. La philosophie, c'est quoi ? La philosophie, c'est à travers ce projet, avant tout, assurer la pérennité et la compétitivité du football français sur le moyen et long terme. Avant tout. Et dans un deuxième temps, certes, c'est à court terme, permettre de sauver nos clubs, de sauver la filière et de participer à relancer également les finances de la fédération et d'aider le football amateur. Si on est d'accord sur cette philosophie, si on est d'accord sur le projet, ça fait sens de regarder. Mais ça fait sens à une condition, c'est qu'on ait une bonne valorisation. C'est-à-dire qu'on ne brade pas nos actifs, clairement. Donc soit, pour ça je vous dis, on est très très à l'aise sur ce sujet-là. On a lancé un process avec un certain nombre de conseils depuis maintenant plusieurs mois. On aura les premières offres indicatives la semaine prochaine, mais que les choses soient très claires. Si on n'a pas une valorisation qui prend en compte notre projet, qui ne comprend pas l'ambition de notre projet de long terme et la place du football français à l'international, on ne le fera pas. Voilà. Par contre, si on a une valorisation qu'on trouve juste, qui nous permettra de sauver notre système, de faire bénéficier de ces fonds également au monde amateur, et qui nous permettra donc de repartir sur des bonnes bases, on se posera la question sérieusement d'avancer. Alors après, le profil des investisseurs, évidemment, le profil des investisseurs, et ce n'est pas un gros mot, c'est majoritairement des sociétés anglo-saxonnes. On a eu... Nos conseils, on a eu plus d'une soixantaine d'appels entrants depuis le début de l'année, de sociétés intéressées. On en a sélectionné, allez, une moitié à peu près, celles qui avaient la capacité financière de participer au projet. Et sur la trentaine de sociétés qui sont candidates aujourd'hui, on a 80% de sociétés anglo-saxonnes, Compignon sur rue, qui font de nombreuses opérations d'acquisition en Europe occidentale et en France. Et on a un process très sérieux, très encadré, et bien évidemment, il n'est pas question de rééditer les erreurs qu'il nous est arrivé de faire, notamment dans le choix du partenaire audiovisuel que nous avions pris en 2018. Après, quel contrôle on a ? On a tous les contrôles. On a tous les contrôles. Ça reste une filiale de la LFP. Le texte de loi prévoit 20%. L'idée, c'est absolument pas de céder 20%. Par contre, on a besoin de dire qu'on cède potentiellement 20% pour maximiser la valorisation. J'insiste, si on n'a pas la valorisation que nous souhaitons avoir, on ne le fera pas. Donc, limiter le pourcentage disponible, ça n'aurait pas de sens. Là aussi, puisque ça tuerait dans l'œuf toute ambition de valorisation importante. Par contre, on n'a pas la volonté de céder 20% tout de suite. On est plus sur une dizaine de pourcents pour voir un peu... déjà, ça nous permet de tester le marché pour voir quelle valeur on peut mettre sur la table auprès de nos clubs. Après, en termes de contrôle et de gouvernance, on aurait donc au moins 85 ou 90% des droits. On prendrait bien évidemment en compte les volontés du partenaire, mais on n'est pas encore rentré dans ces détails-là. Mais quand vous êtes actionnaire, 10-15% d'une société, ce n'est pas vous qui contrôlez. On a des gens quand même qui sont sérieux, qui sont responsables. Et l'idée, encore une fois, c'est un projet global, c'est un projet commun pour le foot français, mais pour le sport français dans son ensemble, où on adhère tous à la philosophie, où on le fait, il y a une des parties prenantes qui ne le sent pas, puis on ne le fera pas, parce qu'on ne va pas passer en force. On pense qu'il faut le faire, on pense que c'est important, mais voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu correctement, mais je ne peux pas trop rentrer dans les... Hein ? Vas-y, on rentre dans les détails.
Juste pour essayer de compléter ce qu'a dit Vincent. Il l'a dit, et c'est un point important qu'on souhaite porter dans un amendement qu'on vous a déjà communiqué, c'est sur la place de la fédération. Aujourd'hui, dans le texte tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, il n'est pas prévu que la fédération puisse bénéficier de l'apport que serait susceptible de faire un investisseur potentiel. Donc nous, on souhaite, et ça, c'est une manière de répondre de façon détournée à votre question, on souhaite évidemment impliquer la fédération pour aider la fédération qui rencontre des difficultés financières liées aussi à la crise de Mediapro. Donc ça fait partie de notre volonté d'associer le mouvement fédéral, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas faire sans l'aval de la fédération, et ça, on en est parfaitement conscient, puisque vous l'avez rappelé, les statuts de la filiale commerciale devront être validés par arrêté ministériel sur avis de la fédération. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire complètement n'importe quoi. De même que pour créer cette filiale, il faudra qu'on modifie les statuts de la Ligue pour confier les missions d'exploitation commerciale au sein de cette filiale. Et donc les modifications statutaires de la Ligue, vous le savez, sont elles aussi validé par la fédération, puis par le ministère des Sports. Donc ça fait un double contrôle, finalement. On parle d'un double contrôle par rapport à la création de cette filiale. Donc l'idée selon laquelle la Ligue pourrait agir librement sur ces questions-là, on en est assez loin, et c'est une manière de répondre positivement à votre question. Le contrôle, il existe déjà dans la modification des statuts de la Ligue, et en plus, on a souhaiter que dans le texte tel qu'il a été proposé, la fédération ait un regard sur les statuts de la filiale ainsi créée. Donc on a, Vincent l'a rappelé, des relations extrêmement étroites avec la Fédération française de football, et ce projet, elle le suit depuis l'origine.
Jean-Jacques Lozac, qui est rapporteur des crédits budgétaires du sport.
Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, je ne reviens pas sur le sujet de la société commerciale qui, en fait, constitue la grande originalité de la future PPL. Hein, d'ailleurs, on voit très bien que c'est ça qui intéresse la presse. Et cette société commerciale concerne prioritairement le football, peut-être un des moindres le rugby, mais ça concerne essentiellement le football. Quant au passage de 3 ans à 5 ans du premier contrat professionnel, je crois que... parce que l'objectif, c'est de garder quand même dans nos clubs français le plus longtemps possible les pépites de notre football. Je crois que vous nous aurez à vos côtés, si je peux dire. Bien sûr, il s'agit de mettre en place une possibilité et non pas une obligation, mais maintenant, c'est un sujet qui est devenu consensuel, je dirais, dans la famille du football. Bon. Un constat quand même, c'est que la France est championne du monde de football, championne du monde des nations, mais ça ne règle pas tous les problèmes, et notamment les problèmes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, en ce qui concerne en particulier les réserves de trésorerie, les fonds de roulement. Tout à l'heure, les chiffres de la DNCG ont été rappelés, c'est tout à fait révélateur. On a un système économique qui n'est pas viable en soi, puisque effectivement, par-delà la pandémie, hein, si on met de côté la pandémie, chaque année, à la fin de la saison, le déficit des clubs, c'est 500, 600, 700 millions d'euros. Ce qui fait qu'ensuite, les actionnaires remettent au pot. Et puis, on compte sur quoi ? Bien, sur le marché des joueurs pour combler les déficits, c'est-à-dire le trading, le transfert. Alors nous, notre souhait, je dirais, c'est d'avoir un football qui soit le plus durable possible, le plus solide, le plus pérenne possible. Et je crois que le législateur devrait avoir son mot à dire, justement, dans le respect de ces équilibres entre le foot spectacle, le foot professionnel, le foot amateur. Mais on a quand même le sentiment, c'est pas nouveau, hein, depuis des années, on a le sentiment que, vu de l'extérieur, on assiste quand même à une sorte de fuite en avant, hein, si je peux me permettre l'expression. Hein, c'est-à-dire que les acteurs du foot agissent comme si on allait avoir du toujours plus, quoi. Hein, toujours plus de matchs, toujours plus de compétitions. D'ailleurs, il y a quelques années, il y avait une seule compétition européenne pour les clubs. Maintenant, il y en a trois. Bon. Donc, toujours plus de compétitions, toujours plus de recettes, de droits télé, de marketing, de merchandising, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a cette fuite en avant. Donc, la question, je dirais, très généraliste que je vous pose, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il faut aller quand même vers davantage de régulation, quoi ? Davantage de maîtrise, voire davantage de réglementation, et si oui, lesquels ? Bon. Deuxièmement, je crois qu'on est très attachés, nous, ici, au club formateur. Club formateur, donc je voudrais savoir, même si on sait déjà que les clubs formateurs perçoivent une partie des transferts, hein, à terme, des joueurs qui ont été formés justement dans leur centre de formation ou dans la catégorie jeune du club concerné. Est-ce qu'à la Ligue, il y a une réflexion qui est lancée pour aider davantage les clubs formateurs ? Une troisième question, c'est sûr, parce que ça fait vraiment partie de vos prérogatives, c'est la répartition des droits télé. Est-ce que là aussi, vous réfléchissez à un système, je dirais, un peu plus solidaire, parce que c'est vrai qu'on prend très souvent comme référence la Ligue anglaise. Et dans la Ligue anglaise, on s'aperçoit que le rapport entre le plus bénéficiaire et le moins bénéficiaire est de 1,4. En France, il est de 2,9. Donc, est-ce qu'effectivement, on va s'acheminer vers un système de répartition qui soit plus égalitaire, plus solidaire ? Et puis, j'ai envie de dire, parce que la gestion du foot, elle est à minima européenne. Minima européenne, l'UEFA, la FIFA, etc. Est-ce que vous êtes prêt, en quelque sorte, à prendre la tête de ce combat pour la limitation du nombre de contrats professionnels dans les clubs, parce que ça participe à cette inflation salariale, à l'augmentation des dépenses de fonctionnement. On voit les chiffres. Un club de Ligue 1, aujourd'hui, il utilise en moyenne 16 joueurs. Bon, alors pourquoi 25, 30, 35, 40, 45 contrats professionnels dans un certain nombre de clubs ? Surtout qu'au-delà, je crois, du 26e joueur, il ne joue que 0,1% du temps de l'ensemble du championnat. Hein, donc ça veut dire de très bons joueurs qui restent sur le banc pendant toute la saison. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer ce qui marque l'actualité, j'arrête, c'est la violence dans les stades. Parce que là, on est en train de franchir un nouveau seuil. Pour la première fois, on voit des spectateurs descendre sur la pelouse, frapper des joueurs. On n'avait jamais vu ça. Et je dirais que même les autres sports ne sont peut-être pas à l'abri de ce genre de débordement. Dans le match de hand ou de volley ou de basket, on peut, pourquoi pas, assister à ce genre de débordement. Donc la question, c'est est-ce que la boîte à outils juridique est suffisante à vos yeux pour lutter contre la violence dans les stades ? Je sais que des clubs souhaitent, par exemple, que les fichiers des interdits de stade transmis par les préfets comportent des photographies afin de les rendre exploitables. Qu'en pensez-vous ? les clubs souhaiteraient pouvoir expérimenter l'utilisation de scanners corporels à l'entrée des enceintes sportives, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, alors techniques ou administratives, pour essayer de régler au plus vite ce fléau, quoi. Merci.
Alors je vais commencer, puis Vincent complétera si ça vous va. Sur les trois points que vous avez évoqués, pour rebondir sur ce que disait le sénateur Savin, on a beaucoup parlé de Mediapro, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce qu'on avait fait avec Vincent sur toute cette année, en parallèle de la crise que nous essayons de gérer. Un certain nombre de réformes ont été actées ou initiées à la Ligue pour essayer d'aller dans le sens de la régulation que vous évoquez. Vous parliez de calendrier et de charges de matchs. On a, vous l'avez vu, réduit le nombre de clubs en Ligue 1. Les clubs ont accepté de mener une réforme pour passer à 18 clubs en Ligue 1, de sorte que le calendrier soit plus équilibré. Et comment on montre l'exemple par rapport à ça ? Vas-y,
si tu veux. Et dans le même temps, on a supprimé la Coupe de la Ligue. Donc on est totalement en phase. Nous, un de nos thèmes, c'est de dire depuis notre arrivée, il y a trop de matchs, trop de joueurs, trop de clubs. Voilà. De façon, trop de compétitions. Voilà, donc nous, sur ce point précis, on réduit plutôt le nombre de compétitions et de rencontres que l'inverse.
Voilà, sur la Ligue 2, la Ligue 2 a souhaité, au moment où le passage à 18 clubs a été voté le 3 juin dernier, a souhaité se laisser un peu de temps. Et demain, à notre Assemblée générale, la question du format de la Ligue 2 sera également à l'ordre du jour, avec une réflexion qui est menée au niveau de la fédération également, pour que la pyramide des compétitions entre la Ligue 1, la Ligue 2 et le National présente un ensemble un peu plus cohérent qu'il ne le présentait jusqu'à maintenant, avec des critères aussi de régulation sur les clubs du National. Donc sur ces questions de régulation, on a aussi lancé des travaux qui vont aboutir sur la fin de l'année, au-delà du contrat de 5 ans, sur la protection de la formation avec la limitation des effectifs sans prendre en compte les joueurs qui auraient été formés au club pour supporter la formation comme vous le proposez. Et puis on travaille également en lien avec la DNCG sur la mise en place d'un salarié cap. Donc on est parfaitement conscient du besoin de régulation que peut avoir notre activité, et parallèlement à son développement, on essaye évidemment de répondre à cette problématique-là.
Oui, parce qu'en fait, concrètement, j'en ai pas fait état dans ma première réponse au sénateur Savin, mais en fait, tout ce que vous nous dites, on l'a déjà fait. Donc le contrat de 5 ans, il est directement lié au squad limit, à la limitation des effectifs, qu'on est en train de faire valider par les dirigeants de club. L'idée, ça serait de plafonner nos effectifs à 24 joueurs pour éviter effectivement les aberrations qu'on a pu avoir dans certains clubs où on arrivait à 72 contrats professionnels. Les seules exceptions qu'on ferait justement à ces 24 joueurs, ce serait justement les jeunes talents, qui systématiquement, les jeunes qui auraient signé ce contrat, rentreraient plus rapidement dans les effectifs et sur le terrain. Donc ça, c'est fait. Dans le même temps, on travaille avec la DNCG et l'UEFA sur la mise en place d'un salarié cap qui va prendre la forme d'un ratio maximal de masse salariale sur le chiffre d'affaires. C'est fait, c'est en cours. Donc tous ces points de régulation font partie de notre projet global et des groupes de travail qu'on a mis en place et qui se réunissent très régulièrement. Donc sur ces points, je pense qu'on est totalement aligné.
D'ailleurs, c'est pour ça que sur le contrat de 5 ans, on vous a proposé un amendement pour porter, vous l'avez rappelé, la durée à 5 ans sous réserve d'accord collectif. Et c'est pour ça qu'on prépare le travail avec l'UNFP en ce moment pour voir dans quelles conditions des contrats de 5 ans pourraient être proposés à des joueurs qui seraient vraisemblablement, ce ne serait pas 5 ans en une fois, mais plutôt 3 ans, plus des prolongations en fonction de la participation du joueur à un certain nombre de matchs. Sur l'exemple anglais que vous prenez, il est juste pas adapté du tout à la situation, puisque...
Non, mais là, je vais répondre. Vas-y. Parce que ça, je peux pas. Je suis désolé. Le coefficient que vous mettez en avant de répartition entre le premier et le dernier du championnat d'Angleterre n'est en aucun cas adaptable à la situation française, pour une raison simple. Les Anglais l'ont mis en place le jour où ils ont eu 3 milliards d'euros de revenus. Donc moi, je ne demande que ça. Je vais même aller plus loin. C'est le jour où on a 3 milliards de revenus, je suis tout à fait d'accord pour que tout le monde ait la même chose. Parce que là, c'est des bons problèmes à gérer. Donc nous, on a essayé de le mettre en place en France, et ça nous a... On a scié la branche sur laquelle on était assis. On a une répartition, de notre point de vue, qui est très solidaire depuis une quinzaine d'années, beaucoup plus que ce que vous croyez. qui a eu pour conséquence de créer un certain nombre de clubs d'un bon niveau, d'un niveau correct, on va dire ça, mais on n'avait plus de très bons clubs. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on va aller vers une répartition plus solidaire, virgule, au moment où on n'a jamais eu si peu d'argent? La réponse, c'est non. Parce que autant, moi, je suis très favorable au ruissellement et à la solidarité quand tout va bien, dans le meilleur des mondes, et je suis même juste que je suis prêt à aller très loin sur ces sujets-là quand on aura redressé la barre, autant à l'inverse, en période de crise, on n'a qu'une priorité aujourd'hui, c'est de sauver nos locomotives, coûte que coûte. Si on ne sauve pas nos locomotives aujourd'hui, on n'a plus de championnat. Si on n'a plus de championnat, on n'a plus de recettes. Voilà, donc en fait, voilà, moi là, c'est tout, c'est ça la réalité.
Sur les questions de sécurité, pour finir de répondre peut-être sur les questions de sécurité, vous l'avez souligné, évidemment, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la Ligue, qui l'a toujours été, puisque les problématiques de sécurité dans le football, c'est quand même un sujet qui est récurrent, avec une gravité plus ou moins importante. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des intrusions sur le terrain ou des joueurs blessés. C'est extrêmement rare. Dès qu'on a vu comment la saison partait, nous avons écrit aux différents ministères de la Justice, de l'Intérieur et des Sports pour leur signifier qu'on avait besoin du gouvernement pour traiter cette question-là, que la Ligue seule ne peut pas régler le problème de sécurité dans les stades. On a été entendu puisque un cycle de réunions a été initié et on doit conclure ces travaux la semaine prochaine, le 16, par une réunion avec de nouveau avec Gérald Darmanin, Roxana Maracinanu et Éric Dupond-Moretti.
Je propose, mes chers collègues, de regrouper les questions parce que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions. Donc, on va faire par série de quatre, en commençant par Jean-Raymond Hugonet, David Assouline, Michel Laugier et Jérémy Bacchi.
Merci, Président. Bonjour, Président, Monsieur le Directeur. Bonjour. Merci pour ces propos, je ne vais pas dire rassurants, mais en tout cas, dans une période où le football français traverse un moment qui n'est pas simple, il est important d'entendre ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le souci d'adaptation aux réalités du marché, qu'on ne peut pas nier, et le fait qu'il faille sauver des locomotives. Sinon, on peut s'occuper d'un championnat, mais il peut sombrer rapidement. Moi, j'ai juste quelques questions. À votre avis, que faudrait-il modifier dans le processus d'attribution des droits audiovisuels pour augmenter les garanties présentées par les candidats et éviter la défaillance du type de Mediapro? La durée des droits est aujourd'hui de 4 ans. Et je crois savoir que vous êtes plutôt favorable à un allongement de cette durée. Quels sont les avantages de l'allongement de cette durée? Et quelle est la durée moyenne, par exemple, en Europe, dans les grands championnats, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne? Et puis la dernière question, puisque vous êtes sensible à l'adaptation, le contrat de 5 ans, on peut comprendre sa logique. Ne pensez-vous pas qu'il peut être assorti au niveau... C'est un sujet qu'on n'a pas abordé encore, mais qui est premier dans le football français. Et on sait que c'est un boulet que l'on traîne par rapport aux autres championnats. C'est sur la fiscalité qui s'exerce sur les joueurs. Alors, c'est un sujet un peu tabou. Mais est-ce que vous pensez que là-dessus, il y a, au moment justement où on examine un contrat, et quand même une contrainte de 5 ans sur une carrière d'un jeune joueur qui n'est pas forcément très longue? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un pendant fiscal à cette réforme?
David Assouline.
Bonjour. Vous avez fait un exposé assez bref, liminaire, et par les questions, on voit progressivement des sujets émerger. Je suis frappé que vos propos ne soient pas surplombés par des appréciations d'ordre un peu plus général qui s'imposent à nous. Nous sommes des parlementaires sur le sens que l'on donne aux choses. Ça n'a plus de sens que des joueurs aussi talentueux qu'ils soient puissent être payés autant, puisque vous parlez d'argent essentiellement. ça détruit tous les repères que nous essayons de construire dans la société pour les jeunes. Premièrement. Deuxièmement, la violence qu'il y a dans les stades est aussi liée à cette perte de sens. Ce qu'on a voulu dire avec le sport, avec cette communion, avec tout ce que signifie le sport dans l'éducation de nos enfants. Et vous, toute la bonne volonté que vous avez, parce que vous aimez le foot, et je peux vous dire que je suis un passionné de foot, vous en arrivez à avoir cette stratégie que vous résumez par une phrase, il faut sauver nos locomotives, on verra après. Pour le reste, si on les sauve, il y aura un entraînement. Ça me fait penser au ruissellement du président de la République, mais je vous dis et je vous pose la question, y compris du point de vue de ceux qui regardent le foot et qui l'aiment. La valeur du championnat français par rapport à la valeur du championnat britannique, c'est que vous regardez n'importe quel match du championnat britannique, vous voyez du grand spectacle, quelque chose de tout à fait étonnant. Or, comme vous le dites, dans le championnat français, quand ce ne sont pas les locomotives qui jouent, ça devient moyen, voire médiocre. Donc, le problème du rehaussement de la valeur même du spectacle du championnat français, c'est de faire que l'ensemble des clubs, qui sont déjà une élite, parce qu'il y a tout le football amateur derrière, puissent être emmenés vers le haut pour le bien même des locomotives, parce que vous voyez bien aussi dans les résultats que quand le PSG joue toute l'année avec des équipes d'un certain niveau, les joueurs sont plus ou moins démotivés quand ils arrivent en Ligue des Champions. On ne peut pas dire qu'ils ont été préparés aux matchs de très très haut niveau. Donc, je remets en cause le fait même que pour la qualité et la valeur, on puisse se baser sur le fait que la stratégie, c'est les locomotives.
Laissez dire ça.
Mais vous allez me laisser, finir.
Chers collègues, si vous pouvez terminer rapidement, parce qu'il y a pas mal de questions derrière.
Bien sûr, mais donc c'est une question et un désaccord, et les échanges peuvent avoir lieu. Sur la valeur des droits, et sur les droits, j'ai commis un rapport sur le sport et en général la télévision. Vous voyez bien que la catastrophe Mediapro pouvait se prévoir. On a eu des fuites en avant. Il y a eu déjà avec Orange, qui avait complètement, avec des droits, bon, voilà ce que ça a donné, Mediapro. Et quand la boussole est au plus offrant, au plus merveilleux, et qu'on ne voit pas ce qui peut consolider et faire en sorte qu'il y ait une pérennité et un sens aux choses, on aboutit à ce type de catastrophe, et il peut y en avoir d'autres demain. Donc la société commerciale, pourquoi pas, mais réfléchir au fait que de toute façon, il y aura un problème demain par rapport à la culture football, qui est très populaire, que ce sport est maintenant payant pour ceux qui veulent le voir, et qu'on paye des joueurs des sommes gigantesques. Et ça, à un moment donné, ça ne peut plus durer, y compris dans beaucoup de pays qui nous entourent, en Espagne, etc. Ils commencent à parler du salaire des joueurs, et c'est peut-être pour ça que certains viennent en France. Dans l'élite, il y a le PSG qui a de l'argent quand même. Donc voyons comment on fait que tous les autres en aient aussi.
Michel Lugier.
Merci, Monsieur le Président. Dans la Brune, il n'y a pas que des biens souligne qui aiment le football, d'autres aussi. Et lui, passionné de Paris Saint-Germain, moi, c'est plutôt l'Olympique de Marseille. Mais bon, comme ça, ça précise les choses. Par rapport à la crise sanitaire à venir, parce qu'on a déjà vécu quelques crises, là, celle qui va arriver, est-ce qu'aujourd'hui, les clubs sont prêts matériellement? Et surtout, est-ce qu'ils sont prêts à une nouvelle diminution de recettes dans leur équilibre financier? Deuxièmement, on voit dans les grands clubs étrangers, le Bayern de Munich, par exemple, ou le Barça, énormément d'anciens joueurs font partie des équipes dirigeantes. Et c'est moins le cas en France. Comment vous l'expliquez ? Et dans cette commission, nous avons débattu longuement avec des propos vraiment de très haute qualité sur la loi, sur le gel des matchs du 5 mai. Nous l'avons voté, mais nous avons regretté quand même que depuis le 5 mai 1992, les instances du football n'aient pas pris leurs responsabilités. Nous avons pris les nôtres. Alors j'aimerais un petit peu que vous nous expliquiez, même si vous êtes à la tête de la Ligue depuis peu, comment vous expliquez ce silence et cette inertie. Merci beaucoup.
Et on reste sur Marseille avec le sénateur Macky.
Merci, Monsieur le Président. Président Labrune, je ne reviendrai pas sur tous les enjeux sur la future société commerciale. Ça a été très bien dit. Mes collègues, notamment Michel Savin, ont posé les questions très bien. Je ne reviendrai pas non plus sur les enjeux économiques. Beaucoup de questions ont été posées. C'est l'avantage de passer en dernier dans le tour de parole. Mais je me concentrerai plutôt sur la violence que nous avons dans les stades depuis le début de la saison. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas des faits nouveaux. En revanche, je n'ai pas souvenir, en tout cas au cours des 20 dernières années, que nous ayons eu comme ça une multiplication de faits plutôt graves depuis le début de la saison sur un exercice, ou même pas sur un exercice en réalité, sur 3-4 mois de compétition. Très rapidement sur le sujet. Et suite à la reprise, notamment dans la presse, du rapport de Rudy Buquet, l'arbitre qui a officié lors du match Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille, du préfet de la direction départementale de sécurité, de nouvelles questions se posent, et notamment vis-à-vis de la Ligue. Est-il vrai que la Ligue privilégie une reprise ? J'ai vu les déclarations, y compris M. Labrune, dans la presse et vos déclarations là-dessus, alors même que, d'une part, l'arbitre était très hésitant, visiblement, c'est dire qu'avant même le jet de bouteille à la 4e minute, Rudy Buquet avait déjà dû faire une annonce dès la 2e minute pour les jets de briquet et de bouteille déjà. Ce qui, permettez-moi, tord un peu le cou de la thèse de l'acte isolé. Enfin, je ne reviens pas sur le détail, le déroulé du calendrier de cette soirée-là, mais les propos qui ont fait suite, et ces derniers jours, notamment du président Aulas, je les cite parce que je ne les ai pas de mémoire, toujours dans le rapport Buquet, « La compétition dépend de la LFP », s'adressant à Rudy Buquet, « vous de la FFF, je fais malheureusement partie du comité exécutif de la Fédération, et ça ne va pas en rester là ». Jean-Michel Aulas, toujours sur Twitter, hier en tout cas, indiquait qu'il cherchait à trouver une solution et donc pourquoi pas passer à 6 remplaçants dans un match. Comme ça inciterait le joueur blessé à reprendre plus rapidement. Il ne vous appartient pas de commenter ces propos. Ceci étant dit, ces propos-là sont de nature à hystériser encore plus le débat, de mon point de vue, et créer les conditions que nous soyons, dans les semaines et les mois à venir, à nouveau confrontés à de pareils débordements. Ne pensez-vous pas non plus que la décision de la commission de discipline de la LFP suite aux incidents entre le match OGC Nice Olympique de Marseille n'a pas créé une sorte de jurisprudence dangereuse pour la suite? Je dis ça parce que nous avions à ce moment-là un consensus assez général, à la fois de la classe politique, du monde sportif, des journalistes, enfin de tout le monde, pour dire de tels incidents doivent créer une jurisprudence de dire match perdu pour l'ensemble des clubs fauteurs de troubles. Voilà, c'est une interrogation que j'ai. Il faut que on regarde ça de manière plus précise. Et je dis pas ça parce que cet après-midi, il y a la commission de discipline qui se réunit sur les incidents du match OLOM. Enfin, dernière question. J'ai vu en début d'année qu'il y avait à titre expérimental qu'il était envisagé, je crois que c'est à Toulouse, si je ne me trompe pas, le retour des fumigènes dans les stades pour regarder si on ne pouvait pas imaginer de généraliser cela. Je voulais savoir un peu si vous aviez déjà, j'allais dire, à mi-chemin, une première analyse de ça, parce qu'on voit bien en réalité qu'il y a de plus en plus de tribunes qui ferment ou qui ont des sursis pour utilisation de fumigènes. Ça participe, de mon point de vue, y compris au sport populaire que nous voulons, sans forcément qu'il y ait eu de débordement avec ces fumigènes-là. Et c'est regrettable de jouer dans des tribunes, dans des stades vides ou dans des tribunes vides, alors que pour le coup, nous pourrions être à la fois très durs s'il y avait des débordements liés aux fumigènes et à la fois leur permettre le retour dans les stades, parce que c'est aussi ce qui permet l'attractivité de notre championnat, de nos stades, mais aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux recettes éventuellement futures à récupérer dans le niveau. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Merci.
Monsieur le Président, Monsieur Rouget, si vous voulez répondre à ces questions.
Merci. Sur la question de la violence, pour rappel, il y a une quinzaine d'années, il y a eu des morts autour des stades. Quand vous dites que vous n'avez pas le souvenir d'avoir vu des événements aussi graves, si, il y a eu des événements bien plus graves. Bien plus graves. Bien plus graves. Après, je vais vous dire ce que j'en pense, je l'ai dit, mais je vais vous le redire. Le stade de football, c'est le reflet de l'état de la société. Ni plus ni moins. Et la société française, post-crise sanitaire ou en pleine crise sanitaire, elle est malade, elle est inquiète, elle est angoissée, elle se divise. Et elle est un peu folle. Et donc, le football français n'est pas responsable de la folie des gens. Alors, est-ce qu'on peut prendre des mesures plus adaptées, plus fortes? Là, je vous entends. Est-ce que la commission de discipline a pris, sur le match Nice Olympique de Marseille, une décision de référence? J'en sais rien. Je suis pas le mieux placé pour en parler, paradoxalement, parce qu'on a un arsenal de sanctions qui est très limité. Mais en tout cas, on agit. Alors, nous, je vais te laisser enchaîner. On agit, mais il faut pas se tromper. On a un arsenal de sanctions qui n'est que sportif, alors qu'on a des problèmes de violence individuelle. Donc on peut pas, la commission de discipline ne peut pas régler elle toute seule, loin de là, les problèmes de sécurité dans les stades.
Voilà, donc c'est le sens, et vos questions sont nombreuses sur ces questions-là, sur ces problématiques de sécurité. C'est le sens des travaux que l'on mène depuis de nombreuses années, puisqu'on l'a dit, les problèmes de sécurité ne sont pas nouveaux. Ils ont été à un niveau très très élevé en 2010, qui a été un point de départ d'un certain nombre de mesures législatives prises en matière d'interdiction de stade, notamment de création de la DLNH. Enfin, les relations entre la Ligue et le ministère de l'Intérieur ont été très étroites à ce moment-là. Et ces problématiques sont prises en compte de façon très sérieuse au niveau de la Ligue. Et comme le disait Vincent, le pouvoir de la Ligue se limite à un pouvoir disciplinaire vis-à-vis de ses membres et donc vis-à-vis des clubs et des seuls clubs. Donc on ne peut pas, nous, aller au-delà de ces sanctions, et on peut commenter les décisions de la commission de discipline à dessein. On peut trouver qu'elles sont trop fermes, trop laxistes. Nous, vous comprenez bien que nous avons un devoir de réserve absolu par rapport aux décisions de la commission de discipline, et encore plus absolu quand ce soir elle doit se réunir pour traiter justement de la question du match olympique de Lyon, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Donc du coup, ça nous oblige à ne pas pouvoir répondre par rapport aux questions que vous posez sur ce match précisément. Je vous renvoie au communiqué qu'on a fait le soir même sur les conditions d'arrêt de la rencontre. Tout à l'heure, j'évoquais les travaux que nous conduisons avec les trois ministères Justice, Intérieur et Sport, et qui doivent conduire à une clarification très précise des conditions dans lesquelles la cellule de crise se réunira et prendra ses décisions, pour qu'il n'y ait plus de décisions longues comme ça a été le cas, et dans une confusion qui laisse à penser que les uns et les autres n'ont pas pris leurs responsabilités. Il ne nous appartient pas ici de commenter les propos du préfet du Rhône, ni de Jean-Michel Aulas, ni de l'Olympique de Marseille. Donc on s'en tiendra là. En revanche, et vous avez raison de le citer, ces incidents ont masqué un travail de longue haleine qui est mené depuis la création de l'instance nationale du supporterisme, auquel on participe activement pour mener un certain nombre d'expérimentations sur des sujets qui sont, on va dire, normalement politiquement incorrects. On pense aux tribunes debout sécurisées qui ont été remises en place de façon expérimentale dans un certain nombre de clubs pour répondre à une problématique des supporters. Et puis des tests de craquage de fumigène encadrés, comme vous faites référence. Ces expérimentations sont menées de façon extrêmement précise sur la base d'un cahier des charges qui a été établi au sein de l'INS et auquel les clubs doivent répondre quand ils veulent mener ces opérations-là avec leurs supporters. Il y en a eu une à Toulouse en début de saison, et le week-end dernier à Clermont, qui s'est très bien passé, où effectivement ça permet d'avoir une utilisation en avant-match au moment de l'entrée des joueurs de fumigène de façon encadrée, de répondre ainsi à une problématique souhaitée par les supporters. Donc oui, on est favorable à ce que vous évoquez. Et oui, on travaille activement à ces questions. Et enfin, au-delà des sanctions disciplinaires que l'on peut prononcer via la commission de discipline, on est évidemment au soutien de tout ce qui peut se passer en matière de sanctions individuelles, puisque dès lors que les individus sont identifiés comme l'auteur du jet de bouteille ou l'auteur du salut nazi sur Nice-Marseille, nous nous constituons partie civile systématiquement pour que des poursuites individuelles soient effectuées à ce sujet. Effectivement, la PPL peut être l'occasion de porter, si vous le souhaitez, un certain nombre de propositions. La question de l'allongement des interdictions judiciaires de stade peut se poser, même si aujourd'hui on peut regretter, et ça fait partie des discussions qu'on a avec le ministère de la Justice, donc il n'est pas question ici de critiquer quiconque, mais force est de constater que la durée maximale de 5 ans est déjà rarement atteinte. On en a beaucoup parlé sur l'auteur du jet de bouteille sur Lyon, mais c'est un fait rarissime. Il est plus fréquent que des incidents de cette nature soient sanctionnés d'un simple rappel à la loi ou de ce qu'on regrette. Évidemment, pour essayer de répondre rapidement aux autres questions, Vincent complète sur la situation sanitaire. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est quelque chose sur lequel on est très discret. Mais sachez que le travail des clubs est exemplaire depuis le début de la crise sanitaire, de tous les clubs professionnels, pas que dans le football, mais aussi dans toutes les disciplines sportives professionnelles qui se sont organisées un peu toutes de la même manière avec des commissions médicales composées d'experts infectiologues qui ont permis de suivre au plus près l'évolution de la pandémie. On s'est adapté systématiquement aux recommandations gouvernementales. Pas plus tard que vendredi dernier, quand le port du masque a été rendu obligatoire dans les ERP, l'information a été communiquée immédiatement auprès des clubs. Les clubs sont parfaitement organisés à la fois d'un point de vue opérationnel pour l'organisation des matchs et d'un point de vue médical sur le suivi de leurs effectifs. On a reçu avec Vincent la semaine dernière l'ensemble des médecins qui ont contribuer à ces travaux-là et qu'on doit ici remercier par rapport à tout le travail qui a été fait sur ces questions-là. Donc, j'irai par rapport à la question qui a été posée. Oui, on est prêt d'un point de vue opérationnel. Non, on n'est pas prêt d'un point de vue économique. Évidemment, si les jauges venaient à être limitées, ça serait un désastre par rapport à une situation économique qui est déjà extrêmement tendue. On vous l'a rappelé. Donc, faut bien dissocier la question opérationnelle. Le sport professionnel, vous le savez, est un milieu où le suivi médical est extrêmement important. Donc les clubs sont parfaitement staffés pour tester les joueurs dont, je le rappelle, l'effectif est à 95% vacciné. Aujourd'hui, les staffs professionnels sont, eux, totalement vaccinés. Il me reste la question du contrat de 5 ans. Dans les discussions qui sont menées, puisque ce que le sénateur Savin a rappelé, c'est la question de ça doit être pris par accord collectif. Il y a deux éléments. Le fait qu'il y aura sans doute une limite au nombre de contrats par club, tout ça reste à définir. Et puis, bien évidemment, la question de la fiscalité sur les salaires des joueurs est un élément important qui aujourd'hui est un peu un serpent de mer depuis la suppression du droit à l'image collective, mais qu'évidemment nous appelons de nos voeux, puisque la comparaison qui est faite souvent, c'est les charges, la masse salariale, les charges sociales d'un club moyen de Ligue 1 représentent l'équivalent de l'ensemble des charges sociales de tous les clubs de Bundesliga. Donc effectivement, pour lutter au plan européen, la question des charges sociales est un élément important, mais il n'y a pas lieu, enfin, dans la PPL, on n'a pas de demande à ce niveau-là. Et puis enfin, sur la durée des droits audiovisuels, oui, on est favorable à un allongement des contrats pour permettre soit à un nouvel entrant d'amortir l'investissement qu'il ferait, soit à un opérateur du marché à sécuriser sa position de façon très très rapide. Vincent, si tu veux compléter.
Non, tu as tout dit, on est favorable effectivement sur la durée de droit, avoir la possibilité de l'allonger. Oui. On pense que c'est utile quand le marché est mature, peut-être pas forcément à court terme, on part de trop bas, mais on pense qu'avoir cette possibilité-là, c'est important. Sénateur Assouline, je voudrais vous répondre. Je vous laisse libre de vos propos, mais je trouve quand même assez paradoxal. D'une part, que vous mettiez en cause le montant des revenus et des salaires des joueurs, et d'autre part que vous citiez en exemple le championnat anglais pour la qualité des 20 équipes qui sont les 20 plus grosses masses salariales possibles et imaginables. On est dans l'entertainment, on est dans du spectacle, et c'est des talents, au même titre que les super productions hollywoodiennes, c'est des artistes, c'est des très gros salaires. En Angleterre, on l'a dit tout à l'heure, il y a 200 millions d'euros de droits télé par club. Donc c'est parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils payent des très gros salaires qu'ils ont ce spectacle-là. Donc c'est absolument incompatible avec la volonté théorique de mettre ça en place en France aujourd'hui, alors qu'on n'a pas les revenus, tout simplement. Donc oui, il faut évidemment contrôler les ratios salariales des clubs. Évidemment qu'il faut aller de plus en plus vers une bonne gestion. Mais un talent, c'est un talent. Une star, c'est une star. Un film avec un casting de premier choix fera plus d'entrées qu'un film avec un casting de ma famille. Donc je ne peux pas rentrer là-dedans. On ne peut pas comparer des pommes et des carottes. Voilà.
Allez, dernière série de questions. Bruno Retailleau.
Oui, Monsieur le Président, deux questions factuelles qui concernent Amazon. La première, c'est est-ce que vous avez l'audience des matchs qui sont diffusés par cette plateforme depuis qu'ils le sont ? Et la seconde question, est-ce que vous avez la mesure du gain d'abonnés d'Amazon consécutif à cette diffusion pour qu'on puisse avoir un indicateur assez précis de l'impact de ce choix ?
Sylvie Robert.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, j'avais l'intention de parler de la formation des jeunes. J'avais l'illustration du centre de formation du Stade Rennais, qui est le club que je soutiens, et de sa stratégie, mais on en a parlé tout à l'heure. Donc, j'ai une petite remarque et deux petites questions, puisqu'on va aller vite. La remarque, c'est que j'arrive pas, mais je pense qu'il y a un élément de compréhension qui me manque, à partager le postulat de base qui ferait qu'il y a trop de matchs, trop de clubs, trop de rencontres, et que ça nuirait à l'attractivité. Il y a quelque chose qui me manque en termes de compréhension. Alors, je ne vais pas faire le parallèle avec l'Angleterre, qui ont beaucoup plus de clubs, et vous avez dit les ressources sont différentes, mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'à un moment, est-ce qu'on n'aboutirait pas à une forme de ligue fermée ? Enfin, il y a quelque chose, si vous pouviez un peu approfondir cette réflexion, moi, j'aimerais bien comprendre. Bon, c'est une petite remarque, mais voilà. Et deux questions. Que pensez-vous de la consommation des jeunes et des chiffres qui, aujourd'hui... mode de consommation des jeunes, puisqu'il y a pas mal d'études qui sortent là aujourd'hui. Et deuxième question, je vois pour d'autres secteurs, je pense au domaine de la culture qui est plus mon domaine, on travaille de plus en plus sur la question de l'empreinte environnementale, des modèles durables, de la question forcément de cet impact en termes d'organisation qui pourrait être un peu plus vertueuse à certains endroits. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez? Et est-ce qu'elle est déjà à l'œuvre avec certaines propositions ? Je vous remercie.
Annick Billon.
Merci, Monsieur le Président. Alors, vous l'avez dit, le sport, la culture ont lourdement été impactés par la crise sanitaire. Donc, la nécessité, c'est moi qui parle, avec les masques, on ne voit pas, oui. La nécessité de revoir le modèle. Donc, deux questions très rapides. Alors, pour faire écho au travail, d'ailleurs, de la délégation aux droits des femmes, et il y a la rapporteure qui est derrière moi, Céline Boulay-Espéronnier. En 2019, il y a eu un rapport sur le football féminin et notamment un certain nombre de conclusions sur le football féminin professionnel. Alors, est-ce que lorsque vous avez travaillé ces réflexions pour l'avenir du football professionnel masculin, avez-vous regardé ce qui se passait au niveau du football féminin et comment ce football féminin professionnel a-t-il résisté à la crise par rapport au football masculin ? Et puis, dans l'avenir du football en général professionnel, avez-vous intégré, je ne le pense pas évidemment, puisque ce sont deux écosystèmes qui ne se croisent pas, la réflexion d'un football féminin professionnel et masculin qui convergerait vers un système commun. Merci.
Olivier Pacaud.
Oui, merci Président. Merci pour vos propos sans langue de bois, Président Labrune. J'ai trois petites questions. La première, liée au problème de violence et de hooliganisme, vous avez évoqué les relations avec les supporters. Je voudrais savoir si, très sincèrement, il n'y a pas un petit problème d'indulgence de la part de certains clubs vis-à-vis de certaines associations de supporters. ne vais pas dire qu'il y a une co-gestion dans certains cas, mais je pense que l'exemple marseillais, que vous connaissez mieux que d'autres, pourra peut-être vous permettre de répondre avec beaucoup de franchise sur le fait que si certains débordements ont lieu, c'est peut-être qu'on a été un petit peu laxiste dans certains cas avec des supporters. Vous avez évoqué les problématiques d'interdiction de stade en déplorant, alors c'est M. Rougier, en déplorant notamment un laxisme de la justice. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme les Anglais qui ont été beaucoup plus loin, bon, qui avaient des problèmes beaucoup plus graves, mais qui les ont a priori résolus? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez évoqué, Président Labrune, en début de propos, la problématique de la performance, qui est insuffisante au niveau des clubs français, alors qu'on a tout. Vous avez dit on a la meilleure formation au monde, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous avez parlé de la problématique du nombre de matchs, mais les Anglais, ils en ont autant que nous. Et ils gagnent beaucoup plus. Donc, ce n'est pas ça, à mon avis. Enfin, je veux dire, si on prend des statistiques, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas, alors, en fait, sur le fond? Les revenus? Bon, OK.
Attendez, on n'a pas de revenus, soyons sérieux. Les clubs anglais, ils ont 50 joueurs, ils ont 4 milliards de revenus.
Donc, OK.
Encore une fois, comparons un périmètre équivalent, s'il vous plaît.
Bon, merci. Merci de votre amabilité. Simplement, il y a des pays qui ont eu des résultats bien meilleurs que nous. Vous avez parlé de la Slovénie avec beaucoup de mépris. L'ex-Yougoslavie, au niveau des ligues...
Au contraire, pas avec du mépris. Au contraire, ah ben, j'ai dit...
J'ai compris, en seconde division auprès des Slovènes. Mais l'ex-Yougoslavie a des meilleurs résultats que nous en termes de palmarès. Hein. Le Portugal, qui n'a pas beaucoup de moyens, fait beaucoup mieux, etc. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Et ma dernière question... Que pensez-vous du projet de Super League européenne qui ressort régulièrement?
Continue les questions. Jacques Grosperrin.
Merci, Président. Monsieur le Président Labrune, le Sénat n'est pas un tribunal, c'est un lieu d'échange où les questions sont peut-être redondantes, mais il est important que les uns et les autres puissent avoir le respect et avoir les réponses. Moi, je voudrais vous poser deux types de questions. Sur la situation économique, je ne reviendrai pas sur rétrospectivement la responsabilité de la Ligue vis-à-vis du fiasco de Mediapro. Je voudrais vous interroger sur les conséquences pour les clubs de la nouvelle situation des droits TV avec Amazon et les relations Canal+. Est-ce qu'il y a des incidences fondamentales par rapport à ça? La deuxième question, c'est sur la sécurité. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le reflet de la société. Oui, c'est le reflet de la société, mais on ne voit pas ce type de débordement dans d'autres sports comme le rugby ou autres. Donc ce n'est pas que le reflet de la société. J'ai repris les propos que vous aviez eus sur la multiplication des incidents et des violences, hein, Montpellier, Nice, Lens, Angers, etc. Mais il semble quand même que les réactions de la famille football sont apparues depuis plusieurs semaines assez contradictoires par rapport à cela. Vous avez insisté, je l'ai entendu, sur les moyens limités de la Ligue pour lutter contre cela. Vous avez dit également que vous étiez choqué, furieux, etc. Appelant à une grande concertation, vous avez expliqué donc ce qui allait se passer. Moi, je me demande s'il n'y a pas une mise en ordre indispensable à l'intérieur de la Ligue. Moi, je trouve ça assez insupportable que des présidents de grands clubs comme Aulas, Rivière, Longoria, à un moment donné, nous donnent l'impression que la Ligue, il joue un rôle important, mais qui nous donne l'impression, à un moment donné, le président, c'est vous. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être un plan d'envergure, il y a quelque chose, il y a des rapports entre la Ligue et la Fédération qu'il faut peut-être améliorer. Et puis, une dernière question, quelles attentes de la Ligue vous pouvez avoir vis-à-vis de vos partenaires des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a des solutions pérennes si le football ne fait pas son propre ménage et ne met pas justement de la cohérence dans ses instances, ses déclarations et dans les déclarations, dans les contradictions de ses acteurs? Merci.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Labrune, je vais aller dans votre sens, évidemment, pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur les locomotives pour le sport, pour le football. Évidemment, c'est important et que ça ne concerne pas uniquement les affiches du top 10, les Lyon-Marseille ou autres. Ça concerne aussi les petits clubs, ceux qui ont des petits budgets. Je suis du Maine-et-Loire, un club dont le budget doit être à peu près le 17e sur les 20 dans le championnat français et qui pourtant s'en sort bien et arrive à accrocher de bonnes équipes et surtout remplit son stade lorsqu'il y a des grandes équipes. C'est un constat évident, mais ça suscite de l'enthousiasme quand bien même on sort avec une casserole, ça peut arriver, face à des grands clubs. C'est pas ça le sujet, c'est l'enthousiasme des classes populaires. On sait la que le football a cette qualité-là de faire venir les classes populaires et l'ensemble de tous les amoureux du football au stade. Et je pense que vraiment, il ne faut pas, quand j'entends, Sassouline est parti, mais enfin, quand j'entends des régulations qui vont à l'encontre de ce qu'on préconise, par exemple, pour le cinéma, vous l'avez très bien dit, est-ce qu'on reproche un film d'avoir une star dans son casting? Évidemment non, et évidemment que ça contribue à la notoriété du film, avant même qu'il sorte, avant même les critiques, d'ailleurs. Donc il faut remettre les choses à leur place. Peut-être que sur l'attractivité que constituent ces affiches, avec des grands clubs qui viennent visiter les petits clubs, il y a une réflexion à avoir sur la répartition des entrées payantes. À ce niveau-là, peut-être qu'il y aurait, parce que c'est évidemment sur ce genre d'affiches qu'on remplit les stades, un petit regret sur l'absence de fidélité à l'opérateur historique, j'allais dire Canal+, qui a sauvé le football français l'année dernière, qui n'a pas été, de mon point de vue, mais qui n'a pas été récompensé à sa juste mesure cette année avec un contrat qui lui a échappé. Je regrette cette décision d'un point de vue très personnel, parce que en plus d'être l'opérateur historique, Canal+ a sauvé le football l'an dernier. Dernière chose sur la discipline. Je vais être très court, Monsieur le Président, mais bien sûr qu'il faut faire quelque chose sur le hooliganisme et sans doute durcir les sanctions, sans doute durcir la façon de contrôler les hooligans. Mais il y a un problème d'éducation, comme dans beaucoup de sujets de violence. Et je pense que ce que l'on ressent, ce que l'on visualise avec le public, c'est aussi ce qui se passe sur le terrain. Et il y a une éducation à faire pour les joueurs. Comment on arrive à casser cette indiscipline des joueurs sur un terrain? Comme on le fait sur un terrain de rugby où lorsqu'il y a une pénalité qui est contestée, on recule de 5 mètres. Comme dans un terrain de hand, vous regardez hier le résultat du match entre l'équipe de France féminine et le Monténégro, il y avait 12-12 à la mi-temps. Il y a un point qui a modifié l'équilibre des choses, c'est l'exclusion d'une joueuse qui, après avoir marqué, a contesté, a applaudi l'arbitre, carton rouge terminé, elle n'est plus rentrée du match. Je pense qu'il faut casser cette logique-là des contestations avec des Marco Verratti qui sont pleins de talent mais qui contestent toutes les 5 minutes. Et quand on aura réussi à éduquer un tout petit peu les joueurs, sans doute que le public suivra. Merci.
Bernard Fialer et Thomas Dossu. Oui.
Ce ne sera pas long parce que je reprendrai les propos qui ont été dits. Vous avez dit que le football était à l'image de la société. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut quand même qu'on prenne vraiment conscience que ce n'est pas ça. C'est plutôt la caricature ou l'exacerbation de certains travers de nos sociétés. C'est, je veux dire, on va retransmettre les matchs à la télévision. Bientôt, il faudra mettre pas le rectangle blanc, mais il y a des choses qu'on ne peut pas montrer aux enfants. Le non-respect de la règle, le non-respect de l'arbitre, le comportement anormal, l'exacerbation aussi d'un ultranationalisme de club avec des propos que l'on entend dans les tribunes et des comportements qui sont compliqués. Moi, je suis rhodanien. La dernière fois que j'étais allé au match l'OL contre Saint-Étienne, j'étais gazé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus emmener nos enfants voir des matchs. Je crois qu'il faut vraiment aussi prendre conscience qu'on ne peut pas laisser une telle image et surtout pas dire que c'est le reflet de notre société, sinon c'est quelque chose de dramatique.
Non, je vous réponds tout de suite, je suis tout à fait d'accord. Vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur, sur ce dernier point. On a un devoir d'exemplarité absolue. On a un devoir d'exemplarité sur tous ces sujets-là. L'image qu'on donne n'est pas la meilleure, loin s'en faut. On a besoin de tous ensemble, chacun à notre niveau, de faire le maximum, effectivement, pour que nos enfants, nos familles puissent revenir sereinement dans les stades. À titre personnel, moi, je suis pour la tolérance zéro. Je suis rattrapé par un principe de réalité parfois, mais je souscris totalement à vos propos.
Oui, merci. Sur la société commerciale, on a bien compris l'intérêt d'avoir une rentrée immédiate de cash pour le football exsangue après la période de Covid sans billetterie et puis le fiasco Media Pro. Mais du coup, on peut s'interroger sur cette période de lancement de cette valorisation du football français au moment où il est à terre. J'ai un peu une interrogation sur comment on valorise. Parce que vous-même, vous le dites, on est sur une période où on peut basculer en Ligue 2, visiblement. J'ai du mal à comprendre la période dans laquelle et quel type de fonds vont être intéressés pour investir. Est-ce que ce sont des fonds pilotés par des États étrangers ou est-ce que c'est d'autres types de fonds? Autre chose, le spectacle, c'est bien sûr de l'entertainment, des acteurs, mais c'est aussi des spectateurs. Et David Assouline l'a dit, il y a une évolution des tarifs d'abonnement qui est quand même assez exceptionnel, et ça devient de moins en moins accessible de pouvoir voir le championnat, donc on a un problème pour un sport aussi populaire que le football. Est-ce que vous envisagez peut-être un plafond dans les abonnements quand vous valoriserez les droits TV pour la prochaine fois? Et puis je vais compléter la question sur l'impact carbone et sur la responsabilité environnementale de la Ligue aussi, puisqu'on a entendu parler de matchs de football de la Ligue délocalisée en Chine. Est-ce que ces propositions sont sérieuses ou est-ce qu'on envisageait ça uniquement pour essayer de valoriser à l'international des matchs? Mais moi, j'ai du mal à comprendre la réalité de ces propositions qui me paraissent complètement hors sol vis-à-vis des problématiques qu'on vit. On voit aussi des équipes qui se déplacent en avion en France sur des trajets qui pourraient se faire facilement en train, sauf que facilement pour des équipes, on a bien compris qu'il y a des problématiques de sécurité. Est-ce que vous envisagez d'améliorer peut-être le transport des joueurs en les accompagnant un peu mieux dans leurs déplacements? Merci.
Sur la société commerciale, bonne question. En fait, on est une start-up, on essaie de lever des fonds, et ce qu'on vend aux investisseurs, c'est le futur, c'est un projet. C'est un projet avec les risques que ça comporte, on sera peut-être déçu, on n'en sait rien, en fait, pour tout vous dire. Et effectivement, si on était dans un pur calcul financier de court terme, c'est évidemment pas le bon moment, je vous le concède. On n'a pas le choix. On joue notre avenir de long terme dans les 18 mois qui viennent, donc on verra ce que ça donne. On essaie de faire adhérer des partenaires, donc des fonds d'investissement prioritairement anglo-saxons sur un projet global de relance de notre discipline et de notre sport. Et on verra très vite si c'est un succès ou pas. Mais en tout cas, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir fait l'exercice et essayer de travailler. Sur Amazon, sénateur Retailleau, on n'est pas en situation de communiquer quelques chiffres que ce soit. On ne peut pas se substituer à la politique d'Amazon. On a des indications de leur part bien évidentes sur le nombre d'abonnés et l'audience des rencontres. La seule chose que je suis habilité à vous dire de leur part, c'est qu'ils sont très contents. Et nous aussi, on est très contents. Voilà. Mais malheureusement, je peux pas faire plus que ça. Voilà. L'empreinte carbone. Hein.
Sur les questions environnementales, il y a plusieurs sujets en fait dans celui. On pense au déplacement des équipes, mais l'organisation même d'un match a une empreinte carbone. Le fait de mettre 40, 50, 60 000 personnes dans un stade fait qu'il y a des déplacements et que finalement l'empreinte carbone d'un match est surtout liée au déplacement des supporters. Et c'est tout le travail qui est fait au niveau local sur les modalités de déplacement pour aller au stade que le meilleur résultat sera fait. Après, il y a des problématiques radicalement différentes qui nous touchent très directement sur l'entretien des sols sportifs, où les problématiques de fongicides sont intégrées pour veiller au respect de l'environnement par rapport à l'utilisation des fongicides notamment. Donc oui, on prend en compte ces questions-là. Le point délicat est évidemment la question du déplacement des équipes, mais c'est quelque chose qui est regardé par les clubs et intégré par les clubs depuis de nombreuses années, notamment au moment de l'organisation des matchs, et un certain nombre de clubs sont déjà labellisés par rapport à ces questions environnementales. Il y avait d'autres questions sur le football féminin. On ne gère pas... Vas-y.
Il y avait une question sur le nombre de matchs. Non, mais on est encore le football professionnel français. On est encore trop dépendant de nos droits TV domestiques dans le budget de dépenses de fonctionnement des clubs. Or, c'est un marché qui est contraint en France, qu'on le veuille ou non. On n'a qu'un acteur qui est en situation dominante, pour pas dire plus, qui n'a qu'un objectif, et c'est pas une critique, et je les comprends de leur point de vue, c'est de baisser les prix. Il y a peu de concurrence. Et donc, effectivement, on doit absolument développer, chercher de nouvelles sources de revenus sur l'international et notamment sur la scène européenne. Et pour avoir des résultats sur la scène européenne, il faut des moyens importants pour pouvoir recruter les meilleurs joueurs dans une compétition qui est globale.
Et sur le nombre de matchs, pour poursuivre sur ce que dit Vincent, les performances des pays que nous regardons au-delà des pays qui sont devant nous, qu'on espère rattraper bien évidemment, c'est aussi ceux qui sont derrière nous et ceux qui nous talonnent. Et tous ceux qui nous talonnent ont des championnats qui sont beaucoup plus resserrés et qui leur permettent d'avoir un calendrier plus allégé et d'être performants au niveau européen. Donc il faut regarder devant nous, ça, on regarde devant nous, mais il faut aussi regarder derrière nos concurrents potentiels qui pourraient nous dépasser au coefficient UEFA. On a beaucoup parlé du Portugal, et le Portugal, évidemment, ne joue pas à 20. Donc ça, c'est sur les questions de performance. Le football féminin, oui, nous restait assez une question qui est intéressante, mais qui relève de la fédération. Donc on va évidemment ne pas répondre à votre question, parce qu'on ne veut pas mettre la fédération en difficulté. On n'a pas d'éléments de réponse sur ces questions-là. Bon nombre d'équipes féminines sont quand même au sein de clubs professionnels masculins. Donc on va dire que la crise, pour essayer de répondre quand même à votre question, ils l'ont traversée en lien d'un point de vue sanitaire avec les dispositifs qui étaient mis en place pour les garçons comme pour les filles. Il n'y avait pas de différence à ce niveau-là. Et puis après, d'un point de vue économique, les clubs professionnels ont été fortement impactés. On l'a vu, donc le football féminin l'a été aussi de la même manière, puisqu'on parle de la même entité. Sur les questions liées à Canal, Vincent l'a dit en introduction, on peut difficilement vous répondre compte tenu des contentieux qui sont en cours. J'espère que vous le comprendrez. Et puis sur les idées de modification de l'arbitrage pour coller à ce qui se fait notamment en rugby, c'est, vous le savez, dans le football, l'IFAB qui a la main au plan international, mais ça ne nous interdit pas, dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a initié depuis la rentrée et qui doit se réunir tout à l'heure à 16h, on va essayer de porter un certain nombre de propositions, dont celle-ci notamment, pour essayer de lutter contre les contestations. Voilà, sur les questions de sécurité, on s'est déjà largement exprimé, donc je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de répondre.
Puis sur la compétitivité européenne, on peut en parler des heures et des heures et des heures. C'est un vrai sujet. On a notre part de responsabilité dans l'approche culturelle. On est très franco-français. On a une approche, les clubs, très domestique, très championnat national. Donc déjà, il aurait fallu qu'on fasse, comme certains autres pays qui ont eu des meilleurs résultats que nous, une approche différente. Les clubs portugais ont considéré que les compétitions européennes étaient des compétitions prioritaires. Ça générait des sources de revenus importantes à leur échelle. Donc ils ont fait tous leurs meilleurs efforts sur ces matchs-là, ce qui n'a pas été notre cas. Deuxièmement, on a un problème quand même de fiscalité, qu'il faut appeler un chat un chat. On part avec un boulet au pied par rapport à certains autres territoires, tout simplement. On a, qu'on le veuille ou non, un problème de répartition aussi, parce que c'est bien d'être très 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 solidaire, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop au détriment des 4, 5, 6 locomotives qui sont là pour essayer de performer en Coupe d'Europe, pour capter des recettes qui seront réinvesties dans un deuxième temps dans le championnat national. Et on a aussi un sujet d'actionnariat, d'investisseurs. À l'origine, dans nos clubs, ça évolue, mais on n'a pas eu, comme par exemple en Angleterre, une quinzaine d'actionnaires de clubs, mécènes, qui ont injecté des centaines de millions d'euros dans le système, dans les joueurs, dans le but de faire monter les droits télé et les revenus et de créer un cercle vertueux. On a plutôt eu, à l'inverse, des actionnaires, bons gestionnaires, prudents, qui attendaient de connaître le montant des droits télé pour savoir combien ils allaient investir. Donc on ne partait pas tous sur la même ligne. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, nous, c'est de changer de mentalité et d'essayer de, sur ces compétitions européennes et sur cette visibilité internationale, au moins de partir sur la même ligne que les autres.
Toute dernière remarque, Michel Savin. Bref.
Oui, merci, Président. Ma première question concernait la PPL sur la société commerciale. Je ne vais pas aborder d'autres questions. Et je vais revenir sur la PPL, Président, et interroger le Président Labrune et le Directeur Général sur le sujet de la violence qui peut être intégrée dans la PPL. C'est pour ça que je me permets de reposer une question. L'enjeu de la violence, et beaucoup l'ont dit, il y a des enjeux important, parce que c'est la sécurité même des joueurs, hein, qu'on le voit. Quand je dis joueurs, c'est aussi les entraîneurs, les arbitres, qui peuvent aussi être sujets à des agressions, hein, dans les stades. On le voit, lorsqu'on voit aujourd'hui des boucliers, des CRS avec des boucliers pour protéger les joueurs qui tirent un corner, ça pose quand même des questions. Premier, la sécurité, l'attractivité, on l'a dit, sur le risque de voir le public familial ne plus venir parce qu'il craint pour la sécurité des personnes et des enfants de venir dans les stades. Et ce serait un vrai problème aussi en termes d'attractivité. Et puis un problème économique, parce que si les seules sanctions, c'est de fermer des tribunes, les clubs sont pénalisés, perdent des recettes, et avec la situation que vous avez décrite, c'est un vrai problème. Donc, comment peut-on... alors moi, la première des questions, c'est de... Aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont prises, aussi bien au niveau administratif par le préfet, la justice, mais aussi les interdictions commerciales. Moi, je voudrais savoir si est-ce que les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont des sanctions... est-ce qu'ils auront toute obligation de pointer à la gendarmerie ou à la police, ou si ce n'est pas le cas, se pose le problème du contrôle de ces personnes, parce que si elles ne peuvent pas être pointées dans une gendarmerie ou de la police, ça veut dire qu'elles peuvent aller de nouveau dans un stade. Se pose la question qu'a évoquée tout à l'heure Jean-Jacques Lozach, c'est que pensez-vous d'ajouter au fichier des interdits de stade des photos qui permettraient de contrôler à l'entrée avec un système pour que ces personnes ne puissent plus rentrer dans un stade et avoir vraiment cette garantie de ne plus avoir ceux qui sont pénalisés de pouvoir rentrer. Et puis, quand on fait le constat avec les autres pays, on voit que la France a 500 interdits de stade, pendant que l'Allemagne en a 6000 et les Anglais 10000. Donc, on voit bien qu'il y a un gros effort à faire au niveau des sanctions individuelles.
C'est important parce que nous aurons à travailler très rapidement sur la PPL. Enfin, on y travaille, bien sûr. On a bien compris que la semaine prochaine, il y aurait le résultat de votre groupe de travail. Mais si déjà vous pouviez...
Non, mais je vais répondre bien évidemment sur une question très pratique d'avoir un fichier mieux centralisé avec des photos. Oui, la communication des interdits de stade aujourd'hui se fait club par club. Si on prend un match Nice-Strasbourg, Nice a ses propres interdits de stade, mais ne sait pas si à Strasbourg il y en a et s'il se déplace. Voilà. Donc il y a une problématique de centralisation de ces informations-là qui est réelle et qui est importante, qui fait partie des points qu'on a identifiés dans le cadre des réunions qu'on mène avec l'intérieur notamment. Le point qui est majeur que vous citez, mais la chancellerie a déjà réagi en envoyant une... Alors, ils n'appellent pas ça une circulaire, et je n'ai plus le mot en tête, mais l'équivalent d'une circulaire à l'ensemble des parquets pour que les peines d'obligation de pointer soient systématiquement associées aux interdictions de stade. Sinon, ça n'a pas de sens d'interdire quelqu'un de stade s'il n'est pas obligé d'aller pointer au commissariat. Donc oui, la clarification du dispositif aujourd'hui est très importante. L'État, et on ne parlera évidemment pas à leur place, en a pleinement conscience et cherche à trouver des solutions. L'obligation de pointage, au passage, elle ne peut pas s'appliquer aux interdictions commerciales de stade, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les interdictions liées à la loi L'Arrivée. Aujourd'hui, il y en a autour de 300 prononcées par l'ensemble des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ce qui est beaucoup, mais pour lesquels il est impossible d'obliger quelqu'un à aller pointer au commissariat quand c'est une peine qui est prononcée, enfin une sanction qui est prononcée par les clubs. Et puis sur votre dernier point, il n'y en a pas 500 actuellement. Ce qu'on a dit et ce qui fait partie des éléments d'explication de la situation actuelle, c'est qu'aussi les interdictions de stade qui étaient prononcées avant la crise du Covid ont finalement été toutes purgées pendant la crise, ce qui fait que
c'est une des explications de notre point de vue à la recrudescence.
Donc aujourd'hui, on n'est pas à 500, loin de là. On est inférieur à 100. Voilà. Donc on viendra vers vous très rapidement pour avancer sur ces questions d'individualisation des sanctions en lien avec les travaux qu'on mène au gouvernement.
Merci messieurs pour les réponses à ces questions. Nous allons être évidemment attentifs aux résultats du groupe de travail là, et la semaine prochaine. Et puis bien sûr, nous aurons nous des courant janvier à nous prononcer sur cette PPL. Merci de cette audition.
Merci, Président.